France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 25 septembre. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, 171 minutes pour convaincre. Le Premier ministre a défendu hier soir la politique du gouvernement sur France 2, sur la justice, la sécurité et la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Jean Castex assume les restrictions imposées dans de nombreuses régions. On voit ça en détail, Marion, après les autres titres.
Nouveau record donc de contamination au coronavirus en France. 16 000 personnes de plus en 24 heures. Vous entendrez dans ce journal l'inquiétude d'un médecin parisien qui voit grimper en flèche le nombre d'entrées en réanimation. La main au portefeuille pour 10 millions de foyers fiscaux français. Leur situation a changé, leur taux de prélèvement aurait dû changer aussi. Ils vont devoir payer. Les Britanniques font leur marché dans nos agences immobilières. Ils sont nombreux à traverser la Manche pour acheter une propriété. La Charente est leur coin préféré. Et puis le président de la Fédération de rugby affiche son émotion. Bernard Laporte repart en campagne pour un second mandat et semble convaincre.
Invité et rendez-vous d'Inter en ce vendredi matin. À 7h50, votre rendez-vous, le débat éco, Thomas Piketty et Dominique Seux échangeront aujourd'hui sur le fait de savoir s'il faut ou non déployer la 5G. 8h20, grand entretien de la matinale avec l'écrivaine Leonora Miano. Elle publie un essai, non pas un roman, Afropéa, utopie post-occidentale et post-raciste. C'est chez Grasset. Vous pourrez dialoguer avec elle, évidemment. 01 45 24 7000.
France Inter.
Il a eu la parole pendant près de 3 heures, fait face à une restauratrice marseillaise, à un ouvrier de l'usine Bridgestone. Premier grand oral télévisé pour Jean Castex hier soir sur France 2. Le Premier ministre forcé de défendre la politique gouvernementale face à la défiance sur les consignes contre le coronavirus notamment. Défendre avec conviction et parfois maladresse, Maxence Lambrecq.
Jean Castex a démontré hier soir qu'il n'était pas une bête politique, mais un simple serviteur de l'État, sans formule choc ni pirouette rhétorique. Incapable de mentir quand on lui demande s'il a téléchargé l'application Stop Covid.
Non.
Non.
Quoi ? Non. Non, parce que je ne l'ai pas fait.
Mais pourquoi ?
Mais vous poussez les Français à le faire, vous ne l'avez pas fait ?
Je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà,
je ne prends plus le métro, donc elle est inutile pour moi, tente-t-il de se justifier. Et dans le public, les ministres Éric Dupond-Moretti et Marlène Schiappa reconnaissent aussi ne pas l'avoir téléchargé. C'est dire si c'est un succès. Qu'importe, Jean Castex est là pour mettre en garde les Français, justifier les nouvelles restrictions.
On pourrait se retrouver dans une situation proche de celle qu'on a connue au printemps.
Ça pourrait dire reconfinement.
Il brandit cette menace, annonce de nouvelles aides pour les entreprises fermées et joue l'apaisement avec les élus des Bouches-du-Rhône.
Quand il y a des mesures ainsi importantes, impopulaires, il vaut mieux que ce soit l'État qui les assume. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer de travailler avec eux, mais je pense qu'il aurait été très difficile pour eux d'assumer ces mesures nécessaires.
Les mauvaises nouvelles, les arbitrages difficiles, c'est donc pour lui et il a l'air de s'y faire, se montrant indifférent au sondage de popularité de la fin d'émission.
Sondage selon lequel 46% des téléspectateurs, seulement 46% des téléspectateurs interrogés auraient été convaincus donc par le Premier ministre. Pour ce qui est des piscines, c'est précisé dans les zones en alerte renforcée, soit la plupart des grandes villes, les piscines couvertes resteront portes closes. Pour le tournoi de Roland-Garros, c'est un quasi huis clos, 1000 spectateurs maximum par jour, 30 fois moins qu'en temps normal. Gros manque à gagner pour le tournoi et toute la fédération. Le manque à gagner, il va peser lourd également chez les restaurateurs et les cafetiers, obligés de fermer notamment dans les zones d'alerte maximale comme Marseille et sa région. C'était l'objet hier soir d'une interpellation du Premier ministre et une manifestation est prévue ce matin devant le tribunal de commerce de Marseille. Le chef du gouvernement promet aux entreprises concernées une prise en charge du chômage partiel, des exonérations de cotisations sociales. Jean Castex parle aussi de renforcer le fonds de solidarité et, je cite, d'indemniser les pertes de chiffre d'affaires. Aides et restrictions nécessaires, sans doute, en tout cas si on regarde les chiffres. Un nouveau record de contamination, plus de 16 000 en 24 heures. On passe la barre symbolique des 1000 patients en réanimation. À l'hôpital parisien de Thenon, service des maladies infectieuses, le professeur Gilles Pialoux voit grimper concrètement la courbe. Il faut de nouveau compter les lits, dit-il, et l'effet des nouvelles mesures ne se fera pas sentir avant 3 semaines.
Quand on regarde les chiffres de rentrée en réanimation sur les 3 dernières semaines, qui augmentent de 50% chaque semaine, on peut faire une projection assez simple, hein, que si rien ne bouge, que les mesures prises ne sont pas efficaces, on sera au 19 octobre dans le mur. Mon service, qui comporte 28 lits, a la moitié de sa capacité occupée par le Covid. Donc, de fait, on a ouvert la même chose dans le service de pneumologie, avec 8 lits de plus. On s'apprête à ouvrir encore 8 lits en médecine interne, à cause de cette augmentation exponentielle. Et pour la réanimation, on est actuellement à 7 patients sur 20 lits de réanimation occupés par le Covid et 6 sur 7 sont intubés, ventilés. Ça a un impact énorme parce que la situation est très différente de mars-avril. On ne pourra pas externaliser les autres patients, on ne pourra pas différer des traitements, des chimiothérapies, des interventions chirurgicales qui ont déjà été différées lors de la première vague. Donc on est extrêmement sous tension.
Le professeur Pialou au micro France Inter de Daniel Messager et effet inattendu du coronavirus. Le nombre d'élèves baisse dans l'enseignement privé catholique, une première depuis 13 ans. Ces dernières années, les écoles privées avaient plutôt attiré des élèves qui fuyaient l'application stricte de la réforme des rythmes scolaires. Mais là, la baisse est flagrante. 15 000 élèves de moins dans le primaire à cause notamment des circonstances sanitaires exceptionnelles, Sonia Princey.
Une part de la diminution des effectifs dans l'enseignement catholique est due à la baisse démographique dans le primaire, qui concerne également l'école publique. Mais les chefs d'établissement du privé ont observé aussi une vague inhabituelle de désinscriptions pendant l'été, les précisions de Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique.
La crise sanitaire a fragilisé un certain nombre de nos familles qui ont appris pendant l'été qu'elles risquaient de perdre leur emploi ou qui ont même perdu leur emploi pendant l'été. C'est celles qui aussi se sont retrouvées brutalement privées de revenus alors qu'ils étaient habitués à avoir des revenus plus que corrects. Je pense notamment aux enfants de commerçants, d'artisans, de restaurateurs, d'hôteliers. On a pas mal d'enfants de ces catégories socioprofessionnelles qui, depuis ou pendant 3 mois ou depuis 6 mois, n'ont plus du tout de revenus, quoi. Et pour qui la situation est très préoccupante. Donc, dans l'attente de jours meilleurs, ils ont préféré inscrire leurs enfants dans l'enseignement public.
Et pourtant, l'enseignement privé a débloqué des aides financières pour ces familles. Mais le principal obstacle reste le coût exorbitant de la cantine, 900 à 1000 euros par an pour un enfant. La désaffection des familles est importante en maternelle. Les parents expliquent qu'ils préfèrent retarder l'entrée de leur enfant dans le privé et l'inscriront en CP lorsque la situation sera meilleure.
Le Covid et ses effets à l'étranger, l'Union européenne appelle à durcir immédiatement les mesures de contrôle face aux nouveaux foyers épidémiques. Et au Brésil, une institution mise à mal, c'est le carnaval de Rio qui est reporté sine die. Il devait se tenir en février prochain. Les écoles de samba n'auront ni le temps ni les ressources pour être prêtes, disent les organisateurs. Grosse perte d'argent et de rentrée fiscale en perspective.
Il est 7h07, on reste dans les sujets économiques, Marion, mais là il s'agit de l'économie quotidienne et plus précisément les impôts.
Vous pensiez que le prélèvement à la source allait tout simplifié. Oui et non, car certains d'entre vous, près de 10 millions de foyers fiscaux, en fait, doivent payer aujourd'hui une régularisation. Ils ont découvert un échéancier sur leur avis de situation déclarative pour 2020. De l'argent dû à débourser tout de suite ou en 4 fois. Situation pas toujours bien vécue en pleine crise sanitaire, Laurent Kramer.
Si vous payez ces régularisations en plus de votre prélèvement à la source, c'est bien que vos revenus ont augmenté. Mais plus surprenant, ils n'ont pas forcément augmenté l'an dernier, en 2019. Mais peut-être il y a déjà 2 ans, en 2018, dans les deux cas, cela signifie que votre taux de prélèvement à la source n'est pas assez élevé et qu'il faut donc le modifier, car en réalité, ce sont parfois vos revenus de 2017 qui ont servi à l'administration fiscale de référence pour calculer votre taux de prélèvement à la source actuel. Il convient donc, pour éviter ce genre de surprise, d'actualiser le plus tôt possible votre taux de prélèvement à la source. À tout changement de situation, cela vous évitera, sauf plus-value ou revenu exceptionnel, d'avoir ces doubles paiements, en quelque sorte régularisation et prélèvement à la source, les 4 derniers mois de l'année.
Jean qui pleure et Jean qui rit, autant de foyers fiscaux devraient se voir proposer un remboursement et pour les mêmes raisons. Empêcher les auteurs de violences conjugales de récidiver, c'est l'objectif du bracelet anti-rapprochement, un bracelet électronique couplé à un boîtier géolocalisé et lancé aujourd'hui dans 5 tribunaux. Il aurait pu sauver la vie de nombreuses victimes, témoignage dans le journal de 7h30 sur France Inter. La justice qui va voir son budget augmenter, promesse du Premier ministre hier soir, plus 8% l'année prochaine, du jamais vu depuis 30 ans selon Jean Castex.
Il est 7h09, Marion, ça y est, Les Anglais débarquent.
Rien de belliqueux dans cet afflux de Britanniques en France. Ils viennent en fait s'installer chez nous, deux fois plus nombreux à venir acheter des propriétés dans le centre et l'ouest de la France. En cause, Thibault Lefèvre, l'approche du Brexit effectif le 1er janvier prochain.
Sarah et son mari sont partis du sud-ouest de l'Angleterre il y a un peu plus de 3 mois. Ce couple, tout juste sexagénaire, envisageait depuis un moment d'acheter une maison de maître à rénover au sud de Châteauroux, mais pas avant la retraite. Avec l'imminence du Brexit, ils ont accéléré leur projet.
On a peur qu'après décembre 31, tout va changer pour les Anglais. On ne sait pas si on doit trouver les visas, des permis de travail. Et pour cette raison, on décide en juin. OK, voilà le moment d'aller.
C'est donc le statut de résident en France qui a motivé le choix de Sarah et de son mari. Et ils ne sont pas seuls, selon Trevor Leggett. Il dirige un groupe de 800 agences immobilières spécialisées dans le marché français, à destination notamment des Britanniques.
On a vu plus de 50% de ventes en plus. Parce qu'aujourd'hui, les Britanniques peuvent rester 182 jours dans l'année sans devenir résidents. Cette période, ils pensent, va être raccourcie de 182 jours à 90 jours avec un visa classique. Du coup, ils vont dire qu'on va devenir résident. Comme ça, il peut retourner en Angleterre comme il veut.
Et depuis cet été, les territoires les plus attractifs selon l'agent immobilier sont les Deux-Sèvres, suivis de la Dordogne et des Charentes.
À l'étranger, c'est une démission qui pose question. L'un des cardinaux les plus influents du Vatican vient de quitter son poste au sein du Saint-Siège. L'Italien Angelo Becciu, à 72 ans, ce départ sans explication ressemble beaucoup à une sanction. Entre rugby et justice, les larmes de Bernard Laporte en France, le président de la Fédération française de rugby, apparemment très ému à l'issue de son audition par le parquet national financier pendant 2 jours. Bernard Laporte est soupçonné d'avoir usé de son influence en faveur de Montpellier, le club de Moed Altrad, par ailleurs sponsor des Bleus. Le dossier est vide, assure-t-il. Bernard Laporte repart en campagne pour sa reconduction, Jean Samar, et apparemment il convainc.
Les soupçons de favoritisme qui pèsent sur lui ne changent rien. Les 40 présidents présents à Saint-Jean-de-Védas restent favorables à la candidature de Bernard Laporte. Une garde à vue, ce n'est pas si grave, ose même Yvan Vincent du rugby club de Moggio-Carnon.
C'est des choses qui arrivent dans la vie, donc après, moi je suis plutôt qu'il faut avancer, voir ce qu'il a fait et aller de l'avant.
Pour ses dirigeants pro-Laporte, le président de la fédération est innocent. Il se questionne sur le timing de la garde à vue, vont même jusqu'aux théories du complot, comme Claude Soncourt du rugby club védasien.
Il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, c'est qu'on fasse, ça fait 3 ans que ça dure, et qu'on fasse ça 10 jours avant les élections.
Ce dirigeant reprend l'argument de Serge Simon, le bras droit de Bernard Laporte, qui affirmait que le dossier était vide. Bernard Laporte, lui, n'a pas parlé du fond de l'affaire, il voulait juste reprendre la campagne.
Je vais repartir avec enthousiasme, force et conviction surtout.
Cette campagne s'appuie beaucoup sur les dirigeants des petits clubs que Bernard Laporte a beaucoup aidé pendant 4 ans. Écoutez Claude Soncourt.
Ils ont donné des plots, ils ont donné un ballon pour 5 joueurs, bon, c'est très bien.
Bernard Laporte a promis qu'il continuerait à aider le rugby amateur, il a donc été chaudement applaudi et a recueilli de nombreuses promesses de vote pour les élections. Elles auront lieu le 3 octobre.
Il lui a remporté suffisamment de votes de la profession pour l'emporter. Le Britannique Michael Kiwanuka décroche le Mercury Prize, équivalent du meilleur album aux victoires de la musique. Pour ceux à qui ce nom ne dirait rien, Kiwanuka, c'est donc ça. Un morceau, Cold Little Heart, qui a notamment servi de générique à la série américaine Big Little Lies.
Quelle série ! Merci Marion Lourd.